Le journal vous est présenté par Charlotte Coutard.
Bonsoir à tous. Tout va bien, pas de crise à l'horizon. C'est le message officiel après le déjeuner entre François Hollande et Manuel Valls, le Premier ministre qui n'exclut pas de se présenter à la primaire de la gauche. La satisfaction des syndicats du site d'Alstom à Belfort, les engagements pris par l'État et le groupe pour sauver le site ont été tenus. Explication d'Annabelle Grelier dans ce journal. En Syrie, les rebelles se replient face à l'avancée des forces du régime et de ses alliés dans les quartiers est d'Alep. Omar Waman a pu contacter des habitants qui refusent de fuir. Nous parlerons aussi de la bataille d'Alep avec notre invité Monzer Makous, l'ambassadeur de l'opposition syrienne à Paris. Les Cubains rendent hommage à Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, mort vendredi à 90 ans. Les cérémonies vont durer toute la semaine. Un déjeuner de plus de 2 heures. Manuel Valls et François Hollande se sont entretenus ce midi après les récentes déclarations du Premier ministre. Il n'exclut pas d'être candidat à la primaire de la gauche en vue de la présidentielle. Mais officiellement, tout va bien à la tête de l'exécutif. Selon l'entourage de Manuel Valls, il ne peut pas y avoir et il n'y aura jamais de crise institutionnelle. Et d'après l'Élysée, le déjeuner s'est déroulé dans une ambiance tout à fait cordiale et studieuse. Ce soir, Manuel Valls est donc toujours Premier ministre. Après son déjeuner, il s'est envolé pour Tunis pour la conférence nationale de soutien à la Tunisie. Sur place, Manuel Valls est resté ambigu sur ses intentions à Kim Kassmi.
Oui, effectivement, Charlotte, on disait que Manuel Valls est arrivé ici en Tunisie, tout d'abord à la résidence de l'ambassadeur de France, où il y avait toute une série de grands patrons qui étaient là la veille de la conférence économique. La question lui était posée, alors Monsieur Valls, pourquoi avez-vous renoncé de vous présenter à la primaire avec cette réponse très sèche du Premier ministre? Mais quelle traduction faites-vous? Il y a plusieurs schémas qui existent. Alors, la question a ensuite été posée un peu plus tard dans la soirée, ici, au palais du Premier ministre tunisien, où toute une série d'accords bilatéraux ont été signés entre la France et la Tunisie. Alors, la question, bien sûr, elle lui a été reposée par la presse française, nombreuse ici. Au début, Manuel Valls a fait cette petite pirouette. Je ne répondrai pas à des questions de politique française ici à l'étranger, ce qui ne l'a pas empêché toutefois de préciser qu'il avait bien déjeuné avec Manuel Valls, avec François Hollande ce midi, qu'ils ont parlé de politique intérieure et aussi de sécurité, en expliquant avec cette petite phrase qu'il ne voulait pas créer de problèmes institutionnels au sein du parti et que deux candidats à la primaire, cela n'était pas possible au sein de la même parti, avec notamment un Premier ministre et un Président. Et puis Manuel Valls a terminé avec cette petite phrase qui en dit long, vous verrez bien d'ici la présidentielle.
Hakim Kassmi en direct de Tunis, merci. François Fillon tente de rassurer. Son programme sur la sécurité sociale suscite des critiques et des inquiétudes. La gauche, et notamment la ministre de la Santé Marisol Touraine, l'accuse de vouloir privatiser la santé. Sur le plateau du 20h de France 2, le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle s'est défendu. Il s'engage à ce que les plus modestes ne soient pas moins bien remboursés. Il a assuré vouloir sauver la sécurité sociale. Eux, ils ont bien l'intention de se faire entendre pendant la campagne présidentielle. Près de 200 travailleurs indépendants, des commerçants, des artisans ont manifesté aujourd'hui à Paris. Point d'orgue d'une marche de 3 semaines pour protester contre le régime social des indépendants. Le RSI qui met en péril de nombreuses entreprises, selon les indépendants. C'est un exemple que la gauche ne manquera sans doute pas de mettre en avant pendant la campagne présidentielle, le dossier Alstom à Belfort. Un comité de suivi a eu lieu cet après-midi, la première réunion depuis les annonces pour le maintien des activités sur le site de Belfort. Le PDG d'Alstom, les élus belfortins et les syndicats étaient tous réunis à Bercy à la demande du secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue. Une réunion qui a tenu ses promesses, Annabelle Grelier.
Depuis le mois d'octobre, Alstom a déjà engagé sur Belfort 1 million d'euros dans l'aménagement d'un nouveau bâtiment industriel destiné à la maintenance des rames TGV. Les collectivités locales et l'État ont également mis la main à la poche et l'activité emploiera 20 personnes supplémentaires dès 2017. L'État, de son côté, a engagé le processus de validation définitive des commandes. 30 trains régionaux, 6 rames TGV Paris-Milan, 15 rames TGV Sud-Ouest et enfin 20 locomotives de dépannage. Des commandes qui seront validé lors des 3 prochains conseils d'administration de la SNCF, le 16 décembre, à la mi-janvier et en mars 2017, pour un total d'environ 700 millions d'euros. Engagement donc tenu pour Olivier Collère, délégué CFDT du site de Belfort.
On est vraiment satisfait de l'engagement du gouvernement par rapport à ce dossier, parce que au mois de septembre, lorsque Alstom a annoncé le transfert de l'activité de Belfort sur Reichshoffen, ben c'est quand même le gouvernement qui s'est saisi du dossier et qui a engagé ces rencontres entre Alstom et l'État pour trouver une solution. Maintenant, on se rend compte que les engagements qui ont été pris par l'État, eh ben, ils sont tenus, ils sont respectés. Une mise en œuvre est actée. Une nouvelle commission de suivi aura lieu encore au ministère de l'Industrie au cours du mois de janvier. Donc, on se rend compte que vraiment l'État a pris ses responsabilités et les assume.
Concernant les investissements d'avenir, le gouvernement s'est engagé à verser 4 millions d'euros pour la locomotive du futur et Alstom 30 millions. Des engagements inscrits et signés qui ne pourront pas être remis en cause après le mois de mai, dit-on à Bercy.
Des précisions d'Annabelle Grelier. La résistance s'effondre totalement à Alep-Est, en Syrie. Les rebelles perdent du terrain face aux forces du régime et de ses alliés. En une semaine, ils ont perdu un tiers de la zone qu'ils contrôlaient. Près de 10 000 civils ont fui les zones de combat ces dernières heures. D'autres restent. Au Marwaman, vous avez pu joindre un habitant retranché sur place.
Mohamed fait partie de ces habitants des quartiers est d'Alep qui préfèrent mourir sous les bombes que de vivre sous le régime de Bachar el-Assad. Il témoigne via Skype.
Je ne sais pas par quoi commencer. C'est comme tous les jours, des bombardements intenses, des raids aériens, des hélicoptères qui larguent des barils qui contiennent du chlore et de nombreuses victimes comme d'habitude. Le régime progresse vite grâce à la couverture aérienne des avions russes. La situation, à l'heure où je vous parle, est horrible, très mauvaise. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures.
Ces derniers jours, Mohamed a longtemps espéré une aide de l'extérieur qui n'est jamais venue.
Nos amis ne font rien pour arrêter ça. Ils regardent en silence alors que les amis du régime font tout pour l'aider à nous tuer. Il y a des combattants irakiens, il y a le Hezbollah libanais, il y a des soldats afghans, des pakistanais et des avions russes dans le ciel. Tous ces gens nous combattent en ce moment. Et quant à nos amis comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ils font rien. Ils regardent et puis c'est tout. Mais nous n'abandonnerons jamais.
Mohamed aura cru jusqu'au bout en cette révolution syrienne.
Reportage d'Omar Waman. Pour parler de la bataille d'Alep, nous sommes avec l'ambassadeur de l'opposition syrienne à Paris. Bonsoir, Monzer Makous.
Bonsoir.
Si Alep tombe, c'est un tournant, ce serait la fin de la rébellion en Syrie?
Il est très tôt de juger et de faire en conclusion qu'Alep est déjà tombé. La situation elle est très difficile, effectivement. Mais les batailles continuent quand même, malgré le discalibre total des rapports de force entre les forces de l'opposition et les forces du régime syrien, mais surtout ses alliés. On connaît très bien que c'est une bataille très discalibrée. On est en face de deuxième puissance mondiale, de deuxième ou même première force régionale, c'est l'Iran, avec une quarantaine de milices différentes. Et en face, on a des combattants qui sont beaucoup moins armés, beaucoup moins supportés. Donc là, c'était tout à fait naturel que le régime syrien arrive à faire des succès sur le terrain. Mais quelle que soit la situation actuelle, il est très tôt de dire que le régime syrien va occuper Alep entièrement.
Mais tout de même, en une semaine, les rebelles ont perdu un tiers de la zone qu'ils occupaient jusqu'à présent.
C'est ça, c'est vrai. Mais la résistance, elle est là. Il n'y a aucune comparaison entre la volonté ferme des combattants avec la volonté des troupes du régime syrien. Mais ça ne suffit pas, évidemment. On entend maintenant dans les conditions actuelles, dans les conditions difficiles qui nous amis et nos frères. Mais je répète, on le sait parfaitement que la situation elle est très difficile.
Et si Alep tombe totalement aux mains du régime de Bachar al-Assad, est-ce que c'est la fin de la révolution syrienne?
Non, absolument pas. Si Alep tombe, c'est possible. Mais ça ne sera pas la fin parce qu'il faut comprendre que toute la région d'Alep, toute la zone nord, y compris Alep, Idlib, Yusuf Chour, Ma'arrat al-Nu'man et pratiquement la moitié nord de la Syrie, il est sous contrôle toujours de l'opposition syrienne, des formations armées qui font la révolution. Et ça sera très tôt de dire aussi, même si Alep tombe, que le régime syrien arrivera à occuper du reste. Il y aura bien sûr des batailles. On sait que le régime syrien va tourner vers Idlib, l'autre bastion de l'opposition, bien sûr, mais d'ici là, on verra.
Une solution politique au conflit est-elle encore possible, selon vous ?
La solution politique, dans les conditions actuelles, bien sûr, elle sera en faveur du régime syrien. Il faut absolument changer à nouveau le rapport de force, il faut remobiliser pour qui et quand l'OTAN arrivera pour négocier la solution politique, qui le rapport des forces soit adéquat pour qui on arrive à une solution politique juste. Dans les conditions actuelles, il est difficile à imaginer une solution politique qui reflète l'intérêt du peuple syrien, reflète les objectifs pour lesquels le peuple syrien est soulevé.
Et si Alep tombe, est-ce que la rébellion est encore capable d'incarner une alternative au régime de Damas ?
Oui, c'est un symbole. Et la résistance, elle est toujours là. Elle prétend toujours d'être l'alternative. Mais dans les conditions actuelles aussi, on sait bien que les choses ne sont pas formidables. C'est la raison pour laquelle on n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui pour unifier les formations armées, pour créer une sorte de structure unifiée, une sorte d'armée nationale qui peut faire face au régime. Maintenant, les formations armées, il y a des dizaines, voire des centaines. Et dans ces conditions-là, c'est difficile aussi, même avec des forces plus importantes, de gagner la bataille. On n'est pas encore arrivé, il faut le reconnaître, qu'on a un organe politique qui est en mesure de diriger la totalité, non seulement de l'espace politique, mais de l'espace militaire aussi. C'est ça les résultats maintenant qu'on est en train de récolter avec la mauvaise organisation de résistance contre le régime syrien.
Vous dénoncez le silence de la communauté internationale. Vous en appelez aux pays occidentaux pour régler le conflit ?
Oui, bien sûr. Les contacts sont permanents, mais ces derniers jours, ils sont multipliés pour qu'on puisse davantage mobiliser, de savoir est-ce qu'il y a vraiment des amis de la Syrie prétendo. Les choses ne sont pas formidables. Donc, il y a beaucoup plus de déclarations que de support réel. Le support réel vient quand même des pays amis, des pays arabes, de la Turquie aussi, mais ça ne suffit pas. En tout cas, la mobilisation n'était pas au niveau pour qu'ils puissent faire face à l'attaque du régime syrien et ses alliés.
Merci Manzer Makous, ambassadeur de l'opposition syrienne à Paris, d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Les cérémonies d'hommage à Fidel Castro ont commencé à La Havane. Elles vont durer toute la semaine. Les Cubains affluent pour rendre hommage au père de la révolution cubaine, mort vendredi à l'âge de 90 ans. Un mémorial a été installé place de la Révolution où convergent des centaines de milliers de personnes, Gaëlle Joly.
La file d'attente serpente sur des kilomètres et des kilomètres autour du mémorial José Martí. L'atmosphère est très calme, empreinte de recueillement. Dans la file, Carmen attend depuis des heures pour se recueillir devant les cendres de Fidel Castro. Elle a un message pour lui. Oui, c'est très important d'être là. C'est un dieu. Je vais l'embrasser. Lui dire qu'il n'est pas seul, qu'on est derrière lui. Qu'on l'aime. Lui dire que où qu'il soit, on est fier de son peuple. Qu'il soit heureux. Qu'il ait confiance car on va poursuivre cette révolution. Beaucoup d'émotions, vous l'entendez dans la voix de Carmen sur la place. On croise aussi des touristes heureux d'assister à ce jour historique, évidemment, comme Chris et Antoinette, venus d'Oxford en Angleterre.
Oui, c'est un historique. Ouais. C'est pas important et moi, mais...
C'est très important pour les gens de Cuba. Nous pensons que c'est important de faire le respect.
Le défilé doit continuer jusqu'à demain soir avant le grand discours d'hommage ici même sur la place de son frère Raoul à Fidel Castro.
Reportage à La Havane de Gaëlle Joly et Laurent Macchetti. Les funérailles de Fidel Castro auront lieu dimanche. Barack Obama, le président américain, ne s'y rendra pas, tout comme François Hollande. C'est Ségolène Royal qui devrait représenter la France. Sans attendre la fin des commémorations, le futur président américain menace de mettre un terme au rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. Donald Trump demande à La Havane de donner plus de garanties en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique dans un message publié sur Twitter. La météo, ce sera un beau et grand soleil pour la moitié nord de la France demain matin, des nuages pour la moitié sud, de la pluie sur le Roussillon. Il fera 0 degré à Lille, Strasbourg et Tours, 2 à Valence, 7 à Biarritz et 11 à Perpignan. Le soleil gagnera du terrain au cours de l'après-midi au sud. Les nuages persisteront sur les Pyrénées et l'Aquitaine. Il fera de 2 à 13 degrés du nord au sud du pays.